Allez, on marche encore une petite heure.
Prêt tout le monde? On est prêt.
Allez, zou.
Elle a tout sacrifié pour passer sa vie aux côtés des gorilles des montagnes dans la forêt rwandaise. Il a fallu une infinie patience à Diane Fossey pour que ces animaux acceptent sa présence. Inlassablement, elle les a recensés, observés. Ses études ont permis de mieux comprendre le mode de vie et l'organisation de ces groupes de grands singes. Elle était aussi une militante convaincue. Elle s'est battue pour défendre cette espèce menacée par les activités humaines et tout particulièrement par les braconniers. Son combat lui a coûté la vie. Diane Fossey a été assassinée, certainement par l'un de ses braconniers, un 26 décembre 1985. Pour évoquer la vie et le tempérament de cette femme hors du commun, je suis en compagnie de Sabrina Krief, professeure au Muséum National d'Histoire Naturelle et spécialiste des grands singes, et Jean-Philippe Noël, journaliste animalier et auteur. Il signe le scénario d'une bande dessinée intitulée Diane Fossey, publiée chez Naïve. Tous deux vont nous emmener dans la forêt rwandaise, dans les pas de cette femme qui a marqué l'histoire de la primatologie.
Je n'oublierai jamais ma première rencontre avec les gorilles. J'entendis, je sentis avant de voir. Le bruit d'abord. Puis une puissante odeur musquée. Une odeur de basse-cour. Et en même temps, une odeur presque humaine. L'air retentit soudain de cris perçants suivis d'un bruit de battements rythmés. C'était un énorme mâle à dos argenté, caché derrière un rideau de végétation impénétrable qui se frappait la poitrine. Johan et Alan, qui me précédaient de quelques mètres sur la piste, me firent signe de ne pas bouger. Nous figeâmes tous trois sur place, jusqu'à ce que les cris et les battements cessent. Puis nous commençâmes à ramper lentement dans le fourré en direction du groupe. Nous nous arrêtâmes à une distance de 5 mètres environ. À travers le feuillage, nous aperçûmes alors une panoplie de faces noires au cuir tanné qui nous fixait d'un air furieux et inquisiteur.
Une lecture de Gorille dans la brume de Diane Fossey, qui, avant d'être le film que l'on connaît, était un livre qu'elle a écrit, Diane Fossey. Alors, à l'époque, c'est très original hein, d'aller passer comme ça du temps avec des grands singes pour les observer, tenter de les comprendre. Sabrina Krief, c'est vraiment une pionnière de la primatologie, Diane Fossey.
Oui, comme Jane Goodall ou encore Birutė Galdikas, hein, ces trois femmes qui ont été choisies par Louise Leakey pour aller étudier les grands singes. Diane Fossey fait référence et reste une pionnière. Mmh. Toutes trois ont découvert des choses absolument incroyables sur ces animaux fantastiques. Ouais. Et aujourd'hui encore, ça reste des ouvrages de référence. Ouais.
Chacune avait son espèce, sa spécialité. Hein, pour Diane Fossey, c'était les gorilles. Pour Birutė Galdikas,
les orang-outans. Et Jane Goodall, les chimpanzés.
Les chimpanzés. Comme vous c'est aussi les chimpanzés, hein, Sabrina Krief.
Exactement.
Que vous allez régulièrement étudier en Ouganda. Qu'est-ce qu'on sait à l'époque où Diane Fossey commence à s'intéresser aux gorilles. Qu'est-ce qu'on sait de cet animal?
En fait, il y a quand même des travaux pionniers de George Scheller qui ont été publiés. Donc, il y a déjà une base scientifique sur la connaissance des gorilles. Mais ce que va réaliser Diane Fossey, comme Jane Goodall d'ailleurs, c'est cette approche intime de la vie des gorilles. Cette proximité, les 5 mètres dont elle parle, là, c'est quelque chose d'assez unique. Et surtout, le fait qu'elle a une sensibilité particulière, qu'elle va nommer les animaux et qu'elle va considérer leur individualité. C'est probablement ça aussi qui va nouer ce lien si étroit entre elle et les gorilles et faire que son destin sera ce qu'il sera.
Ouais. Un destin assez incroyable. Comment cette jeune femme d'origine anglaise qui vit à San Francisco va se retrouver comme ça en pleine forêt rwandaise à observer les gorilles des montagnes? C'est une époque où la primatologie est quand même bien moins développée qu'aujourd'hui. Elle était entourée d'animaux étant petite, Jean-Philippe Noël?
Alors non, petite, elle n'était pas du tout entourée d'animaux. Je crois qu'elle avait droit seule à un poisson rouge qui, si ma mémoire est bonne, s'appelait Bulle. C'était la seule chose que sa mère et son beau-père, puisqu'en fait ses parents étaient divorcés, lui avaient permis d'avoir comme animaux. Elle va se rapprocher des animaux plus tard, quand elle sera ergothérapeute, puisqu'elle va essayer de faire des études de vétérinaire, mais qu'elle ne va pas réussir au bout de 2 ans. Et elle va donc devenir ergothérapeute, s'occuper d'enfants handicapés. Et elle va louer une petite maison dans une ferme où là, elle passera effectivement du temps avec les animaux. Et puis, elle rêvera d'Afrique et des grands animaux d'Afrique. Elle ira jusqu'à hypothéquer son salaire sur 3 ans pour pouvoir s'offrir ce premier safari où elle va découvrir que c'est vraiment là qu'elle veut être.
Mais il vient d'où ce désir d'Afrique, cette envie d'être aux côtés des animaux? Alors il y a ce poisson rouge, d'accord, mais enfin ça n'explique pas tout, Sabrina Krief.
Bah, j'aurais du mal à me projeter dans la vie de Diane Fossey, mais je pense que les forêts tropicales, leur caractère mystérieux, la rencontre aussi après avec Louis Leakey, ses écrits d'anthropologue sont tout à fait décisifs dans le tournant que va prendre sa vie. Je crois que à cette époque-là, les rêves d'Afrique sont multiples et on voit bien que Jane Goodall aussi n'avait pas du tout, n'était pas prédestinée à partir en Afrique et par chance, en fait, toutes deux ont fait cette rencontre incroyable qui leur a permis de réaliser leur rêve.
Mais elle tente de devenir vétérinaire, vous nous l'avez dit, Jean-Philippe Noël, mais elle ne va pas au bout de 2 ans, elle arrête, elle ne va pas au bout de ses études. Pourquoi ça se passe
mal ? Elle était nulle en chimie et en physique.
Et ça, c'est rédhibitoire.
Manifestement, c'était rédhibitoire au bout de 2 ans.
C'est encore le cas, Sabrina Krief, vous qui êtes vétérinaire, d'ailleurs.
Oui, je ne sais pas si c'est rédhibitoire. Ce n'était pas forcément mes matières préférées. Pourtant, j'y suis retournée par la suite. C'est vrai qu'on privilégie plutôt la biologie, la zoologie. Mais il y a forcément un moyen de sélection. Donc, parfois, pas les matières que l'on préfère.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas du tout soutenue par son entourage. Son beau-père ne veut pas, d'ailleurs, lui financer ses études de vétérinaire. Il avait l'air particulièrement... Même quand elle était petite, elle ne pouvait pas manger à table avec toute la famille.
Elle a eu une éducation assez stricte, assez sévère. Effectivement, alors elle a l'image de ce père qui était alcoolique, qui va s'en aller très vite quand elle a 6 ans, dont elle n'aura pratiquement aucune nouvelle. Elle promène juste une lettre où il lui dit qu'il va bien, qu'il a refait sa vie. Mais les nouvelles suivantes qu'elle aura beaucoup, beaucoup plus tard, quand elle sera devenue une femme, elle apprendra qu'il s'est suicidé. Donc elle a effectivement, elle grandit dans une terrible solitude d'enfant. Mm-hmm. Je pense qu'elle a un amour pour les animaux, je crois qu'on peut, certains d'entre nous. Et effectivement, c'est vers l'âge adulte où elle va pouvoir réaliser. Elle va partir à l'autre bout des États-Unis. Ses parents sont à San Francisco. Elle va s'installer, elle, sur la côte Est. Et puis vivre avec les animaux, et puis s'offrir ce safari complètement fou, où elle va rencontrer, d'ailleurs, elle va faire sa première rencontre.
Ouais, mais on comprend, avec cette enfance aussi, parce qu'on va le voir dans la suite de cette histoire, que c'est une femme qui a un caractère trempé, qui est têtue, qui ne se laisse pas faire, et peut-être, alors sans faire de la psychanalyse, enfin même un petit peu, j'en fais quand même de la psychanalyse de comptoir, mais on se dit qu'avec une enfance aussi rude, où il a fallu se battre, où il a fallu affirmer ses envies, ses désirs, face à des adultes qui ne comprenaient pas toujours, c'est peut-être là aussi qu'elle a trouvé cette force de se battre par la suite.
Ouais, moi je crois que j'ai envie de dire simplement qu'elle adorait les animaux et que je pense que quelle qu'ait été son enfance, elle avait envie de vivre parmi les animaux.
Alors il y a peut-être, vous avez peut-être raison, c'est peut-être juste ce goût. Hein. Il y a, vous le dites, cette rencontre avec Louis Leakey, qui est peut-être effectivement l'élément déclencheur, l'élément décisif. Qui est-il, ce monsieur Sabrina Krief ?
Un paléoanthropologue, en fait, qu'elle va rencontrer en Tanzanie, dans les gorges de l'Olduvai, pendant un temps où il fait des fouilles. Et c'est aussi celui qui, quelques années avant, a parrainé le départ de Jane Goodall, dont elle a entendu parler, dont Louis Leakey parle aussi, en expliquant le travail fabuleux que fait cette femme auprès des chimpanzés, ce qui, en plus, du coup, suscite encore plus d'envie de la part de Diane Fossey. Et une seconde rencontre, en fait, va ensuite permettre à Diane Fossey de concrétiser son départ. Elle va lui montrer des photos de gorilles qui, après, on le saura, n'étaient pas les siennes, mais qu'elle fait passer pour étant les siennes.
Donc il y a une part de bluff.
Il y a une part de bluff, je crois quand même qu'elle ose et que ce caractère trempé et déterminé se manifeste dès le départ. Elle ose, quoi.
Louis Leakey, vous l'avez dit, il est paléo-anthropologue, c'est-à-dire qu'il s'intéresse aux origines de l'homme. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve encore aujourd'hui. Souvent, les scientifiques qui étudient les origines de l'homme... parallèlement, mène des études sur les grands singes. Pour quelles raisons ?
Ce sont nos plus proches parents. Il existe aujourd'hui 6 espèces de grands singes sur Terre. Les premières études sur les grands singes, vraiment en milieu naturel, n'ont commencé que dans les années 60 avec ces 3 femmes. On sait peu de choses encore, mais malgré tout, que ce soit en termes d'anatomie, de physiologie, mais aussi de comportement, leur étude nous permet d'en apprendre beaucoup plus sur notre espèce. Aujourd'hui encore, on s'interroge sur l'origine de la violence chez l'homme, sur l'origine de la médecine chez les premiers humains. les grands singes, même s'ils sont en train de disparaître, sont encore les moyens d'interroger cette histoire évolutive.
Alors Louis Leakey l'embarque dans ses aventures en Afrique. D'ailleurs, si on regarde le film Gorille dans la brume, on a l'impression qu'elle le supplie de l'accompagner. En réalité, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est aussi lui qui avait fortement envie qu'elle vienne sur le terrain. Hein. Il a aussi poussé dans ce sens.
Comme disait Sabrina, il avait rencontré cette jeune femme lors de son premier safari. Il l'avait trouvée effectivement assez audacieuse. C'est lui qui lui a conseillé d'aller voir les gorilles. Elle a donc changé ses plans pour aller voir les gorilles. Et puis, il l'a retrouvée quelques années plus tard avec ses fameuses photos. Et il a vu que cette femme était déterminée. Et lui, effectivement, cherchait la personne. Il voulait des femmes. Hein. Il voulait chercher la personne qui pourrait aller étudier les gorilles, qui serait assez... folle peut-être, ou déterminée, disons-nous, pour aller étudier les gorilles. Et donc, je pense qu'il a trouvé à ce moment-là qu'elle avait le caractère suffisamment trempé et suffisamment d'audace.
Pourquoi voulait-il des femmes ?
Alors en fait, il y avait deux raisons. La première était cette part de sensibilité qu'il pensait trouver plus chez les femmes que chez les hommes. Voilà, à lui de, ouais. de juger. Et l'autre chose importante qui les avait fait recruter, ces trois femmes, était qu'elles n'aient pas un background scientifique, c'est-à-dire qu'elles étaient naïves en quelque sorte et qu'elles n'avaient pas de préjugés. Ah oui. Et qu'elles allaient pouvoir exprimer ce qu'elles observaient directement, sans retenue et sans avoir peur de ce que dirait leur père. Voilà, donc sans avoir peur d'être jugée.
Donc elle va pouvoir faire ses premières observations. C'est au Congo hein, au début qu'elle commence ses observations. On va voir qu'elle va vite être chassée du Congo, mais c'est au Congo qu'elle commence ses premières observations auprès des gorilles, comme elle le racontera plus tard.
Chaque matin, en allant travailler, je ne savais pas du tout en quoi consisteraient mes observations de la journée. Je ne savais pas pendant combien de temps je devrais partir, ni combien de kilomètres je devrais parcourir pour trouver des gorilles. Je ne savais pas non plus comment ils réagiraient à ma présence. En général, ils avaient tendance à fuir. Au début, c'était un peu frustrant. Il est parfois difficile de savoir lequel observe et lequel est observé.
La voix de Diane Fossey, on retrouve ce que vous nous disiez, hein, Sabrina Krief. Elle y va naïve, elle ne sait pas comment elle va les trouver, elle ne sait pas comment ça va se passer. C'est vraiment la découverte. Hein. Il faut un certain culot, un certain courage même. Hein.
Oui, c'est la découverte, mais je dirais que c'est le quotidien de tout primatologue qui travaille sur les grands singes encore aujourd'hui, ouais. Même après plusieurs années d'habituation. Hein. Chaque matin, en fait, on se demande toujours ce que vont nous apprendre et à quel moment on va les rencontrer. Parce que malheureusement, même s'ils sont bien habitués, on n'est pas tout le temps avec eux. Ils sont beaucoup plus rapides que nous et chaque jour, on se demande quelle surprise la forêt va nous réserver.
Jean-Philippe Noël, je le disais, le Congo, elle ne va pas y rester très longtemps en fait. Très vite, elle est chassée.
Et oui, effectivement, elle est chassée. Enfin, on lui conseille fortement de partir, ce qui n'a rien à voir avec elle personnellement, puisqu'en fait, il va y avoir une guerre civile qui va, et les autorités locales, les autorités du parc, puisqu'elle est dans un parc national, vont l'accompagner tranquillement et gentiment. Pas sûr.
Pas très gentiment. Je crois qu'elle est raccompagnée militairement à la frontière.
Voilà, pas très gentiment. Ouais. On parle même d'une histoire de viol possible.
En fait, une des raisons de sa violence aussi, peut-être, et de sa relation conflictuelle parfois avec les communautés locales, pourrait venir de ce moment où on sait peu de choses et où elle a raconté peu de choses. Mais
exactement.
Où
elle est restée très longtemps au poste de garde, on va dire.
Donc et elle a été maltraitée.
Voilà, probablement maltraitée, mais elle n'en a jamais rien dit. Et quoi qu'il en soit, elle va être ensuite passée à côté Rwanda.
Oui, donc à la frontière, parce qu'évidemment, les gorilles passent d'un côté et de l'autre de la frontière. Donc elle décide d'aller côté Rwanda. Où là, en tout cas au début, elle est la bienvenue. Commence alors une véritable passion pour ces gorilles. Elle va établir des liens très forts avec certains de ces singes. Vous allez nous raconter ces années passées à observer les gorilles dans la forêt rwandaise. Le temps d'un bivouac dans les pas de Diane Fossey sur France Inter jusqu'à 18h.
De suivre la filière dont tu naquis, petit homme par étrange bizarrerie, de mère nature, de maman Lucie, j'étais bonobo, clame à l'air bonobo, pas peu fier en ça de suivre la filière. Mais
je me demande, soupire le bonobo, si ça valait la peine de se donner tant de peine pour que votre race guerrière, incendiaire, carnassière occupe toute la scène. Je t'aime, bonobo, clame à l'air, bonobo, pas peu fier à ça, de suivre l'enfilière. C'est ainsi que vaincu sans une once de venin, sombrant dans sa tanière, disparu bonobo. Je t'aime, bonobo, clame à l'air, bonobo, pas peu fier en ça, de suivre l'enfilière. Tandis que plus malin, l'homme passe partout, s'emparant de la terre, s'inventa un destin.
Et après les bonobos de M, nous revenons aux gorilles de Diane Fossey.
Nous avons établi notre nouvelle base dans une superbe zone de gorilles. Végétation dense, pentes abruptes. J'ai des contacts quasi quotidiens. Néanmoins, le comptage le plus complet que nous ayons pu mener à bien en dénombre moitié moins qu'il y a 7 ans, d'après Sembagaré. Ce n'est donc pas là une très bonne...
Le nouvelle. Nombre de vos gorilles est effroyablement bas. Mais cela ne m'étonne pas. À ce rythme, les braconniers auront décimé l'espèce d'ici à 5 ans. D'où l'urgence d'amasser sur eux le plus d'informations possibles qui nous seront
très
précieuses.
Depuis quelque temps, j'étudie plus spécifiquement un groupe que j'appellerai le groupe 4. Je me suis progressivement approché des femelles et des jeunes, mais le mâle dominant à dos argenté reste à l'écart. Il garde ses distances, mais observe tout très minutieusement. Je m'approche d'eux à 10 ou 20 mètres sans qu'ils paraissent avoir peur. Au fil des jours, j'espère m'en approcher assez pour établir un véritable contact.
D'ailleurs, le grand Georges Chalère, qui consacra sa vie à étudier les bêtes sauvages, eut la sagesse de garder ses distances. Soyez prudente. Et pendant que je vous tiens, ne pourriez-vous fumer des cigarettes moins chères ?
Extrait de Gorille dans la brume, le film avec Sigourney Weaver dans le rôle de Diane Fossey. Échange épistolaire entre Louis Leakey et Diane Fossey. Des conditions difficiles hein, pour cette femme qui en plus avait une sorte de pneumonie chronique. Et on l'entend, Jean-Philippe Noël, elle fumait en plus des cigarettes chères, semble-t-il. Trop chères au goût de Louis Leakey.
Probablement des américaines. Elle avait une santé fragile. Elle disait d'ailleurs que le plus gros de ses bagages, c'était sa pharmacie. Elle était allergique, elle avait de l'asthme, et effectivement, elle avait plus ou moins une pneumonie chronique, qui faisait qu'en fait, elle vivait quand même à peu près à 3000 mètres d'altitude en permanence. Mmh. Je pense qu'elle a souffert physiquement quasiment la totalité du temps, plus les conditions de vie et d'humidité dans lesquelles elle était en permanence.
On n'a pas décrit, hein, Sabrina Krief, ce lieu où elle observe, on vient de le dire, 3000 mètres d'altitude, hein, dans la forêt au Rwanda. Elle les observe où exactement ces gorilles des montagnes ?
En fait, c'est une forêt qui a un sous-bois relativement dense. Hein. C'est à peu près le même endroit où je travaille, hein, même si on est un tout petit peu plus bas en altitude. Et effectivement, Diane Fossey, en plus, étant très grande, faisant près d'1m80, se déplacer dans ces broussailles, c'est vraiment compliqué. Plus des pentes vraiment abruptes, plus la pluie dans forêt tropicale, qui fait que ces pentes sont glissantes, ça rend la progression très difficile et cette approche vraiment à quelques mètres des gorilles encore plus compliquée.
Ouais. Une approche à quelques mètres, on l'entendait dans l'extrait, hein, Louis Leakey qui lui dit « soyez prudente », il commence un peu à s'inquiéter. Lui, au départ, il l'a envoyé pour recenser, compter, pour compter, dénombrer les populations. Il se rend compte qu'elle va plus loin, qu'elle essaye de les approcher, voire de les toucher. Elle prend des risques à ce moment-là, Sabrina Krief.
Alors en fait, il y a toujours le mythe du gorille dangereux, violent, sanguinaire, et même auprès des populations locales. Hein, on entend, et toujours aujourd'hui, hein, des femmes qui disent que les gorilles peuvent violer les femmes. Donc il y a toujours cette peur. Et c'est ça qui est probablement très nouveau dans l'approche de Diane Fossey, c'est qu'elle va oser venir plus près et sans moyens alimentaires, je voudrais dire. En fait, les chimpanzés et Jane Goodall ont été approchés grâce à des bananes. Mmh. Diane Fossey n'a utilisé aucune alimentation pour les appâter ou pour les approcher.
Alors, qu'est-ce qu'elle utilise pour les approcher, pour la gagner confiance. Leur confiance alors,
La confiance, sa tranquillité. Voilà. Donc, c'est aussi deux espèces vraiment différentes, hein, gorilles de montagne et chimpanzés, hein, parce que aujourd'hui encore, on sait que c'est beaucoup plus facile d'habituer des gorilles que des chimpanzés.
Ah oui.
Malgré tout, elle a cette confiance qu'elle a elle-même et qu'elle arrive à transmettre aux gorilles.
Jean-Philippe Noël, dans votre bande dessinée, hein, vous racontez, vous dites, elle fait comme si elle ne les voyait pas, elle se met dans des positions très humbles, un peu à quatre pattes, elle essaye d'attirer un peu leur attention, de piquer leur curiosité.
Voilà, exactement. Elle dit qu'elle va jouer sur leur curiosité. C'est-à-dire qu'en fait, elle dit qu'elle garde une distance et que c'est petit à petit les singes, les gorilles qui vont venir à elle, probablement d'abord les jeunes. Elle dit d'ailleurs que les grands mâles, lui, restent très distants. Et je pense alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais elle dit qu'elle joue effectivement sur la curiosité de ces grands singes en adoptant des positions humbles et surtout en ne jamais les regardant directement.
Et en mimant aussi leur comportement, c'est-à-dire qu'elle va utiliser les mêmes plans de queue, imitant leur façon de se nourrir, poussant des grognements, se mettant à quatre pattes, marchant en knuckle walking, donc sur les phalanges. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'un scientifique n'aurait peut-être jamais osé faire.
Ouais.
Elle a aucune initiative. Et elle est prête à tout pour pouvoir approcher ces animaux fascinants.
Elle les observe, elle tente de les photographier de temps en temps, comme elle le racontera dans son livre « Gorille dans la brume ».
Tant que les gorilles ne furent pas habitués à ma présence, j'utilisais mes jumelles. Lorsqu'il y avait du soleil, je sortais mon appareil photo. L'une des plus belles photos de gorilles en liberté fut prise pendant le deuxième mois de mon séjour à Kabara, à une époque où les gorilles commençaient à me faire confiance. La photo représente un groupe de 16 gorilles, prenant la pose, comme pour un portrait de famille. Ils se dispersèrent immédiatement en m'apercevant pour se cacher dans la forêt. Déçu, je me mis à escalader un arbre. Le tronc de l'arbre était lisse, et je ne réussissais pas à m'élever de plus de 2 mètres au-dessus du sol. J'allais abandonner, quand Sangbekwe, en proie à un fou rire silencieux, me donna une puissante bourrade sur le postérieur. Je parvins à me hisser sur une branche à près de 6 mètres du sol. J'imaginais que mes soupirs, mes exclamations, le bruit des branches brisées avaient fait fuir les gorilles définitivement. À ma grande surprise, je les aperçus tous assis en rang, comme les spectateurs d'une pièce de théâtre. Il ne leur manquait plus que les sachets de caramel ou des esquimaux.
Sabrina Krief, c'est savoureux à écouter. On se dit c'est peut-être aussi pas très scientifique parce qu'elle leur prête beaucoup d'intention. Elle les voit, elle dit ils ont des fous rires en me voyant moi mal me débrouiller. Quel regard vous, la primatologue, vous portez sur cette façon d'aborder le lien entre le scientifique qui étudie les singes?
On essaye de se départir de tout anthropomorphisme, mais malgré tout, ce qu'elle raconte en se demandant qui observe qui, c'est quelque chose qu'on ressent vraiment souvent. Et puis, de toute façon, au moment de l'approche, il est évident qu'on est testé à chaque moment et que on peut pas nier qu'ils ont des capacités cognitives vraiment extraordinaires et que ils sont capables de reconnaître des individus humains, comme nous, on est capable de les différencier, que notre comportement, l'ensemble de la façon dont on va se déplacer, sont pour eux des indices qui vont soit leur donner confiance, soit les rendre craintifs, attentifs, etc.
Il y a un groupe de gorilles qu'elle nommera le groupe 4, hein, c'est ainsi qu'elle l'a numéroté, ce groupe avec lequel elle va nouer des liens. Alors, à l'en croire, c'est presque des liens d'amitié. Déjà, elle leur donne à chacun un nom, hein, vraiment, elle les identifie. Vous vous le faites, ça aussi, donner un nom, Sabrina Krief, sur le terrain?
Oui, on donne des noms. Alors, on pourrait donner des numéros. Aujourd'hui, on travaille sur un groupe de chimpanzés d'une centaine d'individus. Ouais. Déjà, avec les noms et les moyens mnémotechniques qu'on peut avoir, c'est compliqué. Et puis, en fait, l'approche de ces trois femmes nous ont permis de révéler, en fait, des individualités. Ouais. Et le fait de les nommer, aujourd'hui, pour moi, n'a rien de non scientifique.
Ouais. Vous, c'est entre vous que vous les nommez ainsi. Vous vous adressez pas directement aux singes, alors que elle le faisait. Elle entrait vraiment en interaction avec eux. Alors il y avait Winnie, le vieux chef qui souffrait de problèmes pulmonaires comme elle. Il y a Old Goat, Oncle Bert, Macho, Amok, Digit. Alors Digit, c'est son meilleur copain. C'est avec lui qu'elle va nouer. Est-ce que je peux employer le terme d'amitié avec ce gorille ou je vais trop loin?
Bah, il semble y avoir une relation tout à fait particulière entre elle et ce gorille. Effectivement, nous aujourd'hui, on a appris de ces premières observations. Et au contraire, on garde une distance. On a appris de ces femmes qu'il fallait limiter ce contact et cette amitié. Ouais. C'est vraiment indispensable. Si on veut garder l'objectivité, le but de nos recherches aujourd'hui, c'est de pouvoir les faire comme si on n'existait pas, c'est-à-dire de devenir un élément neutre de l'environnement. Elle, au contraire, suscite la curiosité. C'est absolument ce qu'on ne veut pas, nous,
c'est
aujourd'hui.
Vous trouvez ça frustrant, vous, de ne pas pouvoir faire ce qu'elle a fait, elle? C'est-à-dire qu'elle, elle n'aurait pas aimé faire les recherches comme vous les menez, Sabrina Krief, en étant le plus distante possible de votre sujet d'étude, sans jamais rentrer en interaction avec eux.
Probablement. J'ai la chance, en fait, d'avoir commencé à travailler avec des chimpanzés orphelins dans un sanctuaire, une association qui s'appelle Help Congo, et donc d'avoir eu des contacts avec les chimpanzés, de m'être rendu compte de ce que c'était, de la force qu'ils avaient. Et petit à petit, en fait, je m'en suis éloignée, puisque ensuite j'ai travaillé sur un groupe déjà habitué, puis depuis 2008, j'ai commencé à habituer des chimpanzés qui étaient complètement sauvages. Mmh. Et aujourd'hui, mon plus beau cadeau, c'est que des chimpanzés sauvages ne fassent pas attention à moi. Ouais. C'est-à-dire que pendant 5 ans, ils ont fui dès qu'ils apercevaient une personne de notre groupe. Aujourd'hui, le fait qu'ils me tournent le dos, qu'ils ne me regardent pas, c'est le plus beau cadeau qu'ils puissent
vous
me faire.
Vous avez gagné leur indifférence et ça vous plaît. Pendant que Diane Fossé, elle, gagnait la confiance des gorilles qu'elle étudiait, son travail suscitait l'intérêt des médias et du grand public.
Regarde-moi ça, Diane. Tu fais la couverture du National Geographic et tu es aussi dans les pages intérieures.
Fais voir, Bob. Oh, il semble que Peanut soit plus photogénique que moi, non?
Et le titre, se lier d'amitié avec les gorilles des montagnes. Tu sais combien ils en ont vendu d'exemplaires? 11 millions. Diane, tu comprends? Avec cette simple image, la légende du gorille tueur d'hommes, du monstre sanguinaire, c'est terminé.
Tu as raison. Nous les avons montrés sous un jour nouveau.
Et ton travail est reconnu. Il faut aller plus loin. Je veux faire un film.
Extrait de Affaires sensibles, la fiction, diffusée en 2015 sur France Inter. Diane Fossé devient une célébrité mondiale. C'est-à-dire que là, 11 millions d'exemplaires sont vendus de ce magazine avec elle en photo et avec ses singes. Ça lui sert à financer, évidemment, parce que elle a établi tout un camp, elle a du personnel, elle n'est pas toute seule dans sa montagne. Jean-Philippe Noël, c'est des sous.
Effectivement, c'est de l'argent, c'est beaucoup d'argent. Alors, elle est en fait en contrat avec le National Geographic, c'est-à-dire que via Louis Lucky, dès qu'elle vient s'installer, en fait, le National Geographic la prend en charge. En contrepartie, elle doit un certain nombre d'articles de journaux et puis ses prestations avec ses photos. Au départ, elle n'était pas très pour se faire photographier si près des singes, etc., etc.
On lui force un peu la main.
C'est Bob Campbell qui est d'abord un photographe et puis un photographe son amant, en fait, qui va devenir son amant parce qu'il va rester de longs mois avec elle et qui va un peu, effectivement, la forcer à être de plus en plus près. Et alors, est-ce que c'est lui qui a demandé le contact avec les animaux directs? C'est pas clair, parce qu'elle dit elle-même qu'elle a envie de se rapprocher, mais est-ce qu'il est là un peu lui dire? Et à un moment, il lui dit, si tu restes à 3 mètres, moi, j'ai pas la photo, quoi. Mmh. C'est pas. Et effectivement, l'idée de défendre les gorilles va aussi passer par ces images très fortes et qui vont être soutenues jusqu'à un certain point par la National Geographic.
Oui, alors, on l'entend, là, il y a une partie un peu de médiatisation, même de mise en scène pour les médias. Mais à côté de ça, parallèlement, elle va tenir à passer, alors qu'elle est déjà connue, mais on a l'impression qu'elle cherche aussi la reconnaissance des scientifiques du monde un peu académique, parce qu'en 1974, alors qu'elle fait déjà la une des journaux, elle va tenir à passer son doctorat, Sabrina Krief.
Pour quelle raison ? Plus de 40 ans, en fait, elle décide de rentrer dans le monde scientifique, bah, je pense que pour valider en fait ses observations et pour donner une crédibilité à ce beau travail qu'elle fait, c'était une étape indispensable. Ouais. Je pense que le monde de la primatologie, déjà à l'époque, était relativement dur et que c'était un point important aussi pour garder son territoire, cette station de Carisoquet, et d'éviter d'être envahie par des nouveaux jeunes étudiants qui pourraient avoir envie de travailler sur ce groupe de gorilles.
Elle était mal perçue du monde scientifique. Elle n'était pas assez académique dans son approche.
Bah, disons que, effectivement, elle, comme Jane Goodall, étaient des personnes novices qui n'avaient pas une formation scientifique et qui ont pu faire un doctorat alors qu'elles n'avaient pas les étapes, elles n'avaient pas franchi les étapes de façon académique. Donc, il y avait forcément, probablement, une petite frustration. Et ces découvertes très originales avaient besoin d'être reconnues par ses pairs.
Alors, brièvement, ces découvertes très originales, qu'est-ce qu'elle a apporté, clairement, sur la compréhension de ces gorilles ?
Alors déjà, on a pu réaliser que un groupe de gorilles, c'était un mâle d'eau argentée, mais parfois deux mâles adultes, ce qui auparavant n'était pas forcément bien compris. On a découvert aussi qu'il y avait certains comportements qui n'étaient pas toujours, forcément bien acceptés, qui est l'infanticide, qui existe. Donc ces premières études ont permis de comprendre la façon dont se faisait la constitution d'un groupe, sa fission, sa reconstitution, qui émigrait à quel moment du groupe, la vie sociale, simplement, comment se rythmait la vie d'un gorille, du réveil jusqu'au coucher.
Et puis son caractère à cette femme, ses actions pour protéger les gorilles, parce qu'elle ne va pas seulement les étudier, elle va aussi vouloir les protéger envers et contre tous, vont lui valoir des inimitiés. Diane Fossé n'a pas que des lecteurs et des admirateurs, elle a aussi des ennemis. Nous allons voir qu'elle va se lancer dans un véritable combat. Vous écoutez France Inter, le temps d'un bivouac, dans les pas de Diane Fossé.
and I'm running away. Water is running like a stream, constant growing.
I'm not running away. C'était Feist sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Claude Van Vechten.
Qui c'est celle-là?
Lequel d'entre vous est Claude Van Vechten? Êtes-vous responsable du kidnapping de cet animal?
De quel droit êtes-vous entré dans mon véhicule?
Je vous revois au volant de votre bétaillère, je vous préviens, vous vous retrouverez entre quatre planches.
Ma facture, madame, signée par le ministre de l'Intérieur. Je vais vous faire arrêter par la police.
Qu'elle vienne, qu'elle vienne, sale fumier, petit salaud.
Le ton monte, un nouvel extrait de Gorille dans la brume. On voit une Diane Fosset particulièrement remontée. Alors, dans cette scène, elle en veut un braconnier qui a tué des gorilles pour pouvoir prendre leur petit, pour ensuite pouvoir l'amener dans un zoo. Cette scène, on ne sait pas si elle s'est passée exactement comme ça, mais en tout cas, elle fait référence à des situations auxquelles elle a réellement été confrontée, hein, Diane Fosset.
Effectivement, elle fait référence en fait à deux petits singes de jeunes gorilles qu'on lui a apportés, qu'elle a appelé Coco et Pucker, qui en fait étaient destinés aux zoos de Cologne. Et donc effectivement, pour récupérer ces deux petits singes, on avait tué les parents, voire le groupe, c'est ce qui se faisait à l'époque. Enfin, je crois que c'est ce qui se fait toujours d'ailleurs. Mais les singes étaient les deux bébés étaient en très très mauvaise posture en fait et pas capables de voyager. Et donc on a demandé à Diane de les remettre sur pied. Et elle les a remis sur pied, elle s'en est occupée quotidiennement pendant 3 mois.
Alors elle le fait, même si elle trouve clairement la pratique dégueulasse, elle le fait parce qu'elle se dit, si ces bébés-là, je ne les sauve pas et je les envoie pas dans le zoo qui les a demandés, on va recommencer, on va de nouveau tuer des gorilles.
Exactement. D'abord, elle le fait parce qu'elle voit ces deux petits êtres chétifs, malades, et que son amour pour les gorilles fait qu'elle va s'en occuper. Et qu'elle sait qu'effectivement, de toute façon, ils sont condamnés à vivre dans un zoo.
Alors, les gorilles qu'elle observe, plus généralement, hein, Sabrina Krief, ils sont victimes de braconnage, et notamment ce groupe 4 dont on parlait tout à l'heure, avec lequel elle s'est vraiment particulièrement liée d'amitié, ou en tout cas, elle a noué des liens forts. Pourquoi on les tue, ces gorilles?
Alors, les gorilles, en fait, sont l'objet d'un trafic de mains qui sont utilisées pour faire des cendriers, de têtes qui font des trophées. Un trafic qui est à la fois un trafic d'animaux vivants, comme ça a été décrit avant, hein, quelque chose qui existe encore très fortement aujourd'hui, pas pour des zoos bien référencés, mais pour des parcs d'attractions qui utilisent les bébés grands singes pour faire des photos avec les touristes. Donc ça existe encore. Et puis, dans le cas particulier des gorilles, c'est ces mains qui sont utilisées pour en faire des cendriers.
Donc on tue ces gorilles, mais finalement on retrouve leur corps décapité, les mains coupées, le reste du corps est laissé sur place. C'est uniquement pour faire des objets de décoration et des trophées, alors que ces animaux sont en voie de disparition déjà à cette époque. Ils sont grands menacés.
Oui, alors dans cette zone, en fait, comme c'est le cas aussi en Ouganda ou en Tanzanie, là où on travaille, les grands singes ne sont pas consommés pour leur viande. Mmh. Mais dans la plupart des pays d'Afrique, la viande de grands singes, la viande de gorille et de chimpanzé est très appréciée. Elle est censée avoir des propriétés pour renforcer la vigueur, etc. Mais effectivement, dans ces zones-là, c'est surtout un trafic que Diane Fosset pense organiser et qu'elle cherche à démanteler par tous les moyens.
Oui. Et alors, c'est là où il y a peut-être un basculement dans la vie de Diane Fosset. C'est quand elle retrouve le cadavre, donc décapité, les mains coupées, de Digit, ce chimpanzé avec lequel elle avait noué, ce gorille, pardon, avec lequel elle avait noué des liens plus particuliers. À partir de là, Diane Fosset, c'est plus vraiment de la recherche ou de la science qui la motive. Elle veut défendre, elle veut protéger.
Oui, effectivement. À partir de là, à partir du moment où, effectivement, un 1er janvier, d'ailleurs, 1er janvier 78, on vient la chercher pour lui dire que Digit a été tué par les braconniers et qu'il ne reste plus que le corps. Elle va organiser des funérailles et puis elle va effectivement passer, je dirais, à une autre phase de son engagement pour les gorilles. Elle va moins s'occuper de science. Il faut dire aussi en même temps à l'époque que Karizoke, son centre, s'est internationalisé, qu'il y a désormais, elle y reçoit des étudiants venus du monde entier pour la seconder dans son travail. Mmh. Et elle, effectivement, va se consacrer à la protection de ces gorilles. Et plus particulièrement, elle va vouloir monter des équipes anti-braconnage destinées à démanteler les pièges et faire un peu la chasse aux braconniers.
Alors, parfois un peu à l'extrême, c'est-à-dire que c'est pas seulement les braconniers, elle en veut un peu à la terre entière, y compris aux touristes qui viennent. Elle accueille parfois les touristes en disant on n'est pas dans un parc d'attractions, on n'est pas dans un zoo, elle les accueille fusil à la main, elle tire, alors pas sur eux, mais en l'air. Elle va loin dans sa défense de ces animaux.
Alors certains trouveront qu'elle est extrême. Elle est effectivement allée jusqu'au bout de son envie de les protéger, c'est-à-dire qu'elle sait que les populations de gorilles sont gravement menacées. Elle a son territoire, elle est devenue un peu la maîtresse de ces lieux, et elle tolère très mal, effectivement, qu'on touche à ces animaux, et surtout qu'on envahisse son territoire. Et en même temps, elle est capable de tout à fait avoir conscience, de dire que le tourisme a un rôle à jouer. Elle sait bien que les braconniers ne sont pas juste des monstres, mais que ce sont aussi des batois, que ce sont aussi des gens qui le font parce que ça leur apporte beaucoup d'argent. Et en même temps, quand la moutarde du Montonnet, elle est capable, effectivement, d'accueillir des touristes qui arrive, qui débarque en même temps dans son centre de recherche sans prévenir, et de leur tirer dessus.
Elle va aussi jusqu'à les paysans rwandais, hein, qui sont finalement autant chez eux qu'elle sur sa montagne, qui depuis toujours font paître leur bétail, leurs vaches aux alentours. Elle leur interdit l'accès, elle refuse que ces paysans soient là avec leur bétail près de ces gorilles.
Je dirais presque, mais en même temps, elle applique la loi. Alors, elle applique la loi, puisque elle est dans un parc national. Et dans un parc national, par définition, le bétail n'a pas à venir pâturer dans le parc national. Donc, officiellement, elle applique la loi. Mais on sait bien qu'en même temps, si elle l'a fait avec une stricte, trop strictement, elle se met les populations à dos. Ouais.
J'ai l'impression que Sabrina Kayef bouille de réagir.
En fait, ce qui est compliqué, c'est que elle a à jouer le rôle que les autorités du parc auraient dû jouer. Et elle sent qu'il y a une pression aussi de la part des autorités du parc pour pousser vers le tourisme et peut-être l'évincer de sa station pour prendre la place et transformer Karizoke en centre touristique pour les animaux domestiques qui rentrent dans le parc national. Oui, ce n'est pas normal, mais ce seraient les autorités du parc qui devraient résoudre ce problème-là. Et du coup, elle emploie des méthodes qui sont quand même extrêmement violentes, on va dire, puisqu'il paraît qu'elle fouettait les braconniers qu'elle trouvait avec des orties. Les orties, dans cette région-là, ce n'est pas les petites orties qu'on a ici en France. Qu'elle mettait des masques de sorcières pour leur faire peur. Donc elle renforçait, en fait, cette image de femme complètement étonnante et qui terrifiait en fait les populations locales, et elle va susciter en fait des envies de revanche et de vengeance de la part des populations locales.
Elle est de plus en plus mal considérée par une partie des habitants, au moins dans la région, ce qui ne semble pas la déranger plus que ça.
Eh bien, je ne suis pas ici pour me faire des amis. Je suis venue ici essentiellement pour effectuer des recherches, et je ne crois pas que l'on puisse fermer les yeux ou l'esprit sur les problèmes de préservation des espèces. Et s'il existe quelque chose d'aussi simple que ces patrouilles qui ne font que chercher les collets pour les couper, s'il y a vraiment quelque chose d'aussi simple qui puisse être fait de manière efficace, alors il ne s'agit pas de parler de sauvegarde, il s'agit d'agir.
Rien ne semble passer avant ces gorilles, hein, Jean-Philippe Noël, c'est ce qui frappe. Même sa vie sentimentale, finalement, hein, vous l'abordez un petit peu dans la bande dessinée, on a l'impression que à chaque fois, elle a préféré ses gorilles, sa montagne, son combat au moindre autre engagement.
Oui, à chaque fois, elle a préféré. En même temps, elle a eu une vie sentimentale. Elle n'était pas très loin à pied de Rwenguéri, qui était une sous-préfecture, donc où il y avait du monde. Et elle a eu, tout au long de sa vie africaine, elle a eu de nombreux compagnons de vie, que ce soit un photographe qui passe ou le médecin du coin. C'est pas une femme non plus qui a vécu hors du monde. Il faut pas en faire une espèce de passionnariat.
C'est pas ce que je voulais dire, mais en tout cas, demande en mariage, elle les refuse. Elle en a eu des demandes en mariage. Elle a justement Bob Campbell, le photographe dont on parlait, une histoire d'amour avec lui. Elle est enceinte de lui. Elle décide d'avorter parce qu'elle ne veut pas de cet enfant. Elle ne veut pas être accaparée accaparée par cette vie de mère. Donc elle a quand même, c'est ça que j'entends en disant, elle a quand même fait passer avant tout les gorilles.
Ah oui, ça c'est clair. Que oui, bien sûr, elle a fait sa vie. D'ailleurs, elle disait qu'elle était chez elle au milieu des gorilles.
Ouais, elle n'était bien que au milieu des gorilles, Sabrina Krieff.
Il semblerait, ouais.
Vous comprenez cette passion, vous avez la même où vous trouvez qu'elle va au-delà de ce que vous ressentez.
C'est un travail envahissant, à savoir que quand on a en charge une station de recherche, comme c'est le cas pour nous aujourd'hui aussi, avec mon mari, je suis mariée, ouais. avec un photographe aussi, quand on a une équipe, aujourd'hui on a 20 personnes locales pour lesquelles il faut trouver des financements, c'est chaque jour un combat. Et que, bah, pareil, hein, on a une patrouille anti-braconnage, qu'on trouve des collets, que un jour on vous apprend qu'il y a un des chimpanzés qui a été tué et qu'on a retrouvé sa tête sur un pieu calciné. Oui, enfin, c'est tous les jours. Et aujourd'hui, avec Internet, Facebook, etc., même quand je suis ici, je suis à chaque instant en contact avec l'équipe.
Oui, ça occupe votre esprit. Elle aura sacrifié beaucoup de choses, Diane Fosset, pour vivre avec les gorilles. Son combat va lui coûter la vie. Nous allons le voir dans un instant avec nos invités Sabrina Krieff et Jean-Philippe Noël, le temps d'un bivouac sur France Inter.
De mauvaises herbes insoumises, les arts de les trottoirs. Je ne dors pas, j'ai l'insomnie de ma cité dortoir. Toute ma vie, j'ai rempli mon caddie d'illusions. Moi, je téléphone, je télécommande et je télévision. Silence, on tourne, on vit, on rit, mais ça ressemble à du playback. Mon banquier, c'est James Brown et tous les mois, c'est payback. Des millions d'Andy Warhol s'impatientent sur le quai de la gare pour un quart d'heure de trajet dans le train de la gloire. On veut être star, à l'instar des étoiles, l'intimité s'étale en prime time, se vend sur PayPal. On intronise le médiocre, plus de caviar que du Big Mac. On prépare une pensée fast-food dans la cuisine de l'Audimat. Du pain et des jeux pour calmer les ventres creux, du Xanax dans les meutes, du Prozac pour miséreux. Fermez vos livres s'ils vous apprennent à hésiter. Méfiez-vous, à vouloir vivre, on peut finir par exister. À trop courir après mes rêves, je fais des claquages au cœur. Quand j'y crois plus, je prends la plume pour prendre de la hauteur. À trop courir après mes rêves. À trop courir après mes rêves. À force des courbes se dessinent sous mon regard somnifère. J'ai voulu décourber les chines, à courir après mes chimères. J'ai envolé mes rêves dans des avions de papier. Et j'ai voulu la vie de château en m'endormant dans un clapier. La mer est belle, monsieur, j'ai gommé les nuages. Voyez les valises sous mes yeux, elles m'invitent au voyage. Le ciel est beau, madame, j'ai dessiné l'image. Écoutez donc l'oiseau qui chante, enfermé dans sa cage.
C'était « À trop courir » chanté par Gaël Faye et la programmation musicale du temps d'un bivouac sur France Inter est signée Elsa Béranger.
L'assassinat en Afrique de Diane Fosset, qui s'était rendue célèbre en étudiant les gorilles avec lesquels elle vivait depuis près de 18 ans dans les montagnes du Rwanda. Elle avait 53 ans, les gorilles étaient sa passion, et elle était certainement la meilleure spécialiste de ces animaux. Apparemment, elle a été tuée par des braconniers. C'est une grande zoologiste qui disparaît ainsi de manière tragique.
L'annonce de la mort de Diane Fosset le 26 décembre 1985, c'est survenu comment? Qu'est-ce qu'on sait de la mort exactement? Il y a encore une zone d'ombre hein, sur ce décès, Jean-Philippe Noël.
Tout à fait. En fait, on sait qu'elle a été assassinée dans sa cabane, que probablement on sait qu'elle a été assassinée avec une machette, mais qui lui appartenait, qui était dans la cabane de Diane. Et qu'il y a eu une lutte. Les faits, c'est à peu près tout ce qu'on sait.
On n'a jamais retrouvé l'assassin.
Alors, il y a eu un assassin présumé qui a été mis en prison et qui s'est pendu, ou qui a été pendu. Et après le génocide en 94, les Américains ont demandé à interviewer l'un des sous-préfets de la région pour savoir ce qu'il savait sur l'assassinat de Diane Fosset, en présumant qu'il avait été le commanditaire.
Et on n'en sait pas plus.
Moi, je n'en sais pas plus.
Ouais. Il y a une troisième hypothèse. En fait, le rapport de police dit qu'elle avait dans sa main des cheveux d'homme blanc. Voilà. Après, c'est un rapport fait par les locaux. Hein, donc, on peut présumer qu'il y avait probablement des personnes qu'on souhaitait accuser pour peut-être cacher certaines choses. Voilà. Aujourd'hui, on ne sait rien.
Jean-Philippe Poel.
Voilà, juste une chose, c'est qu'effectivement, je mentionnais tout à l'heure la machette. Il y en a qui pensent qu'en fait c'était un vol qui aurait mal tourné. C'est-à-dire qu'en fait, elle avait des problèmes de visa. On lui donnait de moins en moins de visa, etc., ouais. etc. Et donc elle aurait eu un dossier qui mettait en cause un certain nombre de hauts fonctionnaires dans le trafic de l'ivoire. Et elle menaçait de dévoiler. Mmh. On est dans des hypothèses. En fait, et il y aurait quelqu'un qui aurait peut-être voulu juste dérober. Ces documents, et il se serait battu, ça serait mal terminé pour elle. Mais tout ça, pour l'instant, on est vraiment dans des hypothèses.
Oui, vous dites pour l'instant, on ne saura certainement jamais la vérité. Mais en fait, elle avait tellement d'ennemis qu'il y a tellement de possibilités parmi les commanditaires que c'est une enquête très difficile à mener.
Exactement. Et puis bon, je crois qu'il y a d'autres événements qui sont survenus au Rwanda depuis et que malheureusement, l'histoire de Diane a été, enfin, la fin de Diane a été un peu occultée.
Quel héritage elle a laissé, Sabrina Krief ?
Elle a laissé un ouvrage, Gorille dans la brume, qui a permis de faire ce film, qui a permis de médiatiser son combat, de sauver probablement les gorilles de montagne. Les gorilles de montagne restent la seule population de grands singes qui est en augmentation aujourd'hui. On regarde les 50 dernières années, 70% des grands singes ont disparu. Donc d'ici une dizaine d'années, tous pourraient avoir disparu de la surface de la Terre.
Si elle n'avait pas été là, on pourrait se dire que c'est gorilles des montagnes ne serait plus de ce monde ?
Très probablement, Diane Fossey et le film Gorille dans la brume ont été un élément déclencheur pour motiver cette préservation. Et le tourisme qu'elle refusait, l'écotourisme aux gorilles, est aujourd'hui malgré tout un moyen de les protéger, puisque le braconnage dans la zone en fait, où le tourisme existe, pas en RDC et pas forcément partout dans les zones où vivent les grands singes, ce braconnage a été bien réduit.
Ouais, mais il existe toujours, en tout cas les populations de grands singes en général sur la planète sont encore menacés.
Sont menacés par le braconnage, par la disparition de l'habitat, par les maladies. Il faut savoir qu'effectivement, la perte d'habitat, c'est quelque chose de très fort et que nous aussi, citoyens, ici, on a notre rôle en faisant attention à ce qu'on consomme. Et ça reste un des moyens d'avoir une action ici aussi. C'est-à-dire ne pas forcément recycler, faire attention aux emballages, faire attention à ce qu'on consomme, l'huile de palme en particulier.
Pour en savoir plus sur ce sujet, on peut aller sur le site de votre association, Sabrina Krief. Rappelez rapidement l'adresse qu'on mettra en lien sur la page de l'émission.
sabrina-jmkrief.com.
Voilà. Et puis on peut aussi lire votre ouvrage, Les chimpanzés des mondes, la lune, aux éditions Belin. Jean-Philippe Noël, on peut lire votre bande dessinée, Diane Fossey, aux éditions Naïve. Et puis on signale aussi une pièce de théâtre, Moi, Diane Fossey, qui paraîtra donc le 9 janvier, enfin qui sera jouée le 9 janvier au Théâtre 14 à Paris. Merci à tous les deux.
Merci à vous.
Merci.
Bon, je dois te laisser, je t'enverrai une carte postale.
Demain à 16h, nous parcourons la planète avec le sismologue Pascal Bernard. Et puis à 17h, c'est l'écrivain amoureux des chevaux Jean-Louis Gouraud qui nous emmènera au galop à la découverte des cultures équestres du monde. À demain donc pour de nouvelles aventures. Après le journal, vous avez rendez-vous avec Nelly Caprielian pour un nouveau MAC de l'été. Bonjour Nelly.
Bonjour.
Alors quoi de neuf au programme de votre journal ?
Bah, pas vraiment du neuf, puisqu'on va aussi parler des grands singes, mais nous, ils gagnent, puisqu'on va parler de la sortie de La Planète des Singes, Suprématie, le troisième volet de la nouvelle saga par Matt Reeves.
Ah ben voilà, on a fait exprès, hein, bien sûr.
On a fait exprès, bien sûr, on a tout coordonné.
Tout est coordonné, on continue donc avec les grands singes dans un instant sur France Inter.